les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines bien sûr. Aujourd'hui, être laid est-il un handicap dans nos sociétés? C'est fou en tout cas le nombre d'études, de réflexions, d'analyses pour mesurer l'avantage ou le désavantage d'être beau ou laid dans la vie amoureuse, dans la vie sociale et surtout dans la vie professionnelle. Claudine Sagart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et philosophe et vous publiez une histoire de la laideur féminine. Vous nous direz si l'humanité a toujours été subjuguée ou repoussée par l'apparence physique, un peu comme si le corps, le visage, l'enveloppe parlait à la place de la personne elle-même. Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études en philosophie à l'EHESS, c'est-à-dire l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes célèbre pour vos essais consacrés au corps. Vous avez publié Histoire de la beauté, notamment, Les métamorphoses du gras. Et puis, nous interrogerons aussi sur les frontières de la laideur, ce qui est beau. Peut-il être laid ailleurs? Voilà les questions que nous nous poserons. Notre correspondant en Corée du Sud nous dira quel cauchemar vivent les personnes considérées comme laides en Corée du Sud et à quel point l'apparence physique conditionne vraiment la vie des Coréens. Et chez vous, les voisins et les voisines, que signifie être moche? Quelles sont les conséquences de cette disgrâce physique? Peut-on la contourner? Nous attendons vos réactions et vos témoignages si vous vous sentez personnellement discriminé à cause de votre physique. Il va de soi que tous vos témoignages sont anonymes. Je vous lis bien sûr quelques témoignages. Alors je peux vous dire que les auditeurs, les voisins et les voisines sont très philosophes ce matin sur le sujet. C'est un sujet qui les inspire. Melzo à Brazzaville au Congo Brazza, les femmes souffrent plus souvent de leur laideur. Il est plus facile de trouver du boulot pour les filles belles que pour celles qu'on trouve laides. Voilà qui légitime évidemment votre histoire de la laideur féminine, hein, Claudine Sagart. Tim, qui est dans l'ouest des Comores. Personne n'est laid car chacun est libre de ses goûts et de ses choix. Toute personne est belle aux yeux d'une autre. La laideur n'a donc aucune place dans la société parce qu'elle n'existe pas. Vous commenterez ça, Georges Vigarello.
Absolument.
Jean-Marc à Abidjan. La laideur, c'est le manque de confiance en soi. On peut être laid physiquement et avoir un bel esprit, avoir la plus belle fille à ses côtés. Qui nous donnera justement confiance en nous. Pour moi, la beauté, c'est le mental. Abdoul, à Dakar, nous dit que la laideur n'est pas un handicap. S'arrêter au physique de quelqu'un, c'est montrer qu'on est limité. Alors, est-ce que toute l'humanité est limitée? Toute la question. Abdoul, à Dakar aussi. Abdoulaye, à Bamako. La laideur du corps, nous dit Abdoulaye, n'est pas un défaut, c'est un don de Dieu. Vous parlez beaucoup du poids de la religion, hein, d'ailleurs, et de la responsabilité ou pas de sa propre laideur, de ce qui est considéré par les autres comme sa propre laideur, hein, Claudine Sagart.
Tout à fait.
Massamam, qui est à Bamako, nous dit que nous sommes programmés pour aimer ce qui est beau. Mais heureusement pour eux, ce qui est beau à Paris n'est pas forcément beau à Bamako. Nelson, à Port-au-Prince, alors là c'est vraiment une question pour vous, une injonction. Il faut avant tout un vrai débat rhétorique et philosophique concernant la laideur. Il faut la définir, qui est laid, qui ne l'est pas et sur quels critères. Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec vous, Georges Vigarello et Claudine Sagart. Appelez-nous les voisins et les voisines, bien évidemment, on a envie de croiser l'analyse de nos invités avec vos témoignages et votre regard sur la société dans laquelle vous vivez.
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Alors Claudine Sagart, est-on en mesure de définir la laideur?
Alors, c'est un problème extrêmement complexe. Néanmoins, je pense qu'on pourrait partir de trois axes d'analyse. Une laideur qu'on pourrait appeler native, c'est-à-dire qui renverrait à un certain inesthétisme. Une laideur qui a été générée par différents types de facteurs. Et puis, ce qu'on pourrait appeler une laideur fabriquée. Hein? Donc, la laideur native, acquise et fabriquée. À partir de là, à partir de ces trois critères, il faut quand même souligner qu'aucune perception n'est neutre. C'est-à-dire que on ne perçoit pas l'esthétisme sans renvoyer à certains éléments qui nourrissent finalement notre jugement. Mmh. Et que dans ce sens-là, la perception est toujours reliée à la culture de référence et à l'époque de référence.
Oui. Mais alors, si je vous comprends bien, la laideur du point de vue de la naissance, si on reprend naissance, à la laideur de naissance acquise et fabriquée. De naissance, ça peut être par exemple un nez jugé beaucoup trop important par rapport au reste du visage, par exemple.
Voilà.
La laideur acquise, ça serait quoi? Ça pourrait être le poids éventuellement.
Alors, la laideur acquise, ça serait effectivement au niveau d'une mauvaise hygiène de vie, mais ça pourrait être aussi un vieillissement prématuré.
Ouais.
Ça pourrait être
ce qui est le cas pour
pénibilité
les personnes pauvres,
au travail.
Hein,
voilà, une pénibilité au travail.
Ouais.
Ça peut être un problème de santé.
Ouais. Et la laideur fabriquée, alors?
Alors, la laideur fabriquée est totalement reliée à la dimension politique et économique. C'est-à-dire que dans toute l'histoire de la beauté et de la laideur, on voit que l'esthétique est finalement sous contrôle du pouvoir.
Donc c'est le regard de l'autre, la laideur
alors,
fabriquée.
C'est vraiment une fabrication dans le sens où on va décréter à certaines périodes que tel ou tel type d'individu ou tel type de peuple peut être jugé comme disgracieux. Et si je reprends simplement la dimension des femmes, c'est très intéressant de voir, par exemple, que les révoltés, les intellectuels, ont été représentés comme étant des femmes laides, mais aussi certains peuples. Certaines religions, les discours antisémites, ont véritablement projeté une laideur du juif, par exemple. Donc là, on est bien dans la fabrication. Et dans ce sens-là, bien sûr, la laideur n'existe pas, elle est totalement créée.
Georges Vigarello, sur la définition de la laideur, en opposition à vous qui avez travaillé sur la beauté.
D'abord, je trouve ce qui est passionnant dans le livre de Claudine Sagard, c'est qu'elle s'intéresse vraiment à un objet qui n'est pas toujours mis en avant, qui est précisément la laideur. En général, ce qui est mis en avant, c'est la beauté. Et on tente de décrire les critères de la beauté. Donc le mérite de ce type d'analyse, c'est quand même de se pencher sur l'envers, si vous voulez. Et quels sont les signes de l'envers? Alors vous me posez la question sur la laideur. C'est vrai qu'on peut avoir, à mon avis, une vision un peu traversant le temps. Et on trouve effectivement dans des périodes différentes au fond, des critères semblables. Alors, les critères, c'est l'envers de la beauté. Alors, qu'est-ce que c'est que les critères qui traversent le temps et qui définissent la beauté? Et très simplement, on peut dire, c'est la symétrie, c'est une certaine harmonie, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, une certaine jeunesse. Et finalement, l'envers de cela, bah, c'est des formes de vieillissantes, c'est des formes dissymétriques, c'est des formes de cassage, de cassure dans l'allure, vous voyez, qui font que ça crée de la dissymétrie.
Vous avez beaucoup travaillé sur le corps. Est-ce qu'il faut distinguer le corps et le visage dans la perception de la laideur, selon vous?
Alors ça, c'est également un problème absolument passionnant, parce qu'à travers cette histoire, pendant très longtemps, c'est le visage qui l'emporte. Aujourd'hui, écoutez, franchement, c'est pas le visage. Vous voyez, le visage, en partie. Mais quand vous regardez les affiches, moi, ça me passionne très fort. Les femmes sont, et ce sont les femmes qui sont les symboles de la beauté, sont souvent vues de dos. C'est la ligne qui s'est imposée progressivement. Alors pourquoi la ligne s'est imposée? Ça, ce sont des questions très intéressantes. Pour renvoyer à ce qui était dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a le milieu, il y a la référence à la fois économique, sociale, etc., qui impose des formes. Aujourd'hui, dans des sociétés qui sont des sociétés techniques, qui sont des sociétés du mouvement, qui sont des sociétés de l'habileté, ce sont évidemment les corps élancés, fins et mobiles qui l'emportent. Vous voyez, donc on renvoie à une dominance qui privilégie à mes yeux aujourd'hui la silhouette sur le visage.
Alors ce qu'on découvre dans votre livre, Claudine Sagard, vous publiez une histoire de la laideur féminine en vous appuyant sur des textes depuis l'Antiquité, et d'ailleurs des textes écrits par des hommes avec un dégoût pour la femme en tant que telle déjà, et encore plus évidemment lorsqu'elle est perçue comme laide.
Tout à fait. Dès l'Antiquité grecque, je crois qu'il y a trois types de discours. Les écrivains, les philosophes et les médecins. Mais étonnamment, ces types de discours se rejoignent sur un point. Et moi, il y a un texte que vraiment je trouve très très intéressant sur ce sujet. C'est le mythe de Pandore. Hein ? Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, montre bien que Pandore est une création de la beauté. Elle est véritablement à l'image des déesses. Mais cette jeune fille, Pandore le dit très très bien, elle paraît belle, mais n'est pas belle. Et je crois qu'il y a une dimension très importante sur l'opposition entre l'homme et la femme, du paraître et de l'être. L'homme est beau, la femme paraît belle. Et Hésiode ajoute, pourquoi elle ne fait que paraître belle? Parce que moralement, elle est laide. Hein, il dit véritablement, elle a un cœur de chienne. Donc, il y a là une dévalorisation de la femme qui se retrouvera chez Aristote, par exemple, lorsque Aristote ou même Hippocrate, hein, quelle est, le, quelle est la conception...
Il écrit des choses absolument atroces,
absolument,
hein, sur le physique des
atroces,
femmes.
Sur déjà l'être féminin. Mmh. On a ça déjà chez Hésiode, comment est réalisé Pandore de matière et d'eau. Mmh. On
c'est
retrouve ça,
ça l'être
chez
spongieux,
Aristote,
comme vous dites. Hein.
Complètement. La femme froide et humide. On retrouve ça chez Hippocrate. Hein. C'est cette idée que la femme est avant tout une matière et que dans ce sens-là, bon, elle ne peut pas développer ses facultés intellectuelles,
ouais.
elle ne
ouais.
peut pas être morale mmh. parce que son corps est complètement ouais. valétudinaire.
Aujourd'hui,
il est toujours souffrant.
Aujourd'hui, plus de 20 siècles après, est-ce que les femmes sont... plus que les hommes encore soumis à une injonction, c'est-à-dire à avoir un physique aimable, comme l'écrivait Balzac au XIXe siècle, par exemple.
Alors là, je pense que si la femme s'est émancipée d'un certain nombre de choses tout à fait positives, véritablement, elle ne s'est pas émancipée de son apparence. Ouais. Et une femme est toujours jugée à partir de son apparence.
Même si la chirurgie esthétique se développe pour les hommes.
Oui, c'est vrai, ça reste minoritaire et c'est dans les deux dernières décennies que la beauté masculine est mise au premier plan.
Je voulais le témoignage d'une auditrice, assez tôt à Paris, nous dit « Mon patron, il y a quelques années, m'a dit que j'avais 3 handicaps. Je suis noire, je suis grosse, je suis une femme. C'est vrai qu'on n'a pas la même rigueur pour les hommes. Une femme se doit d'être belle. Comment est-ce qu'on est censé se construire en tant que femme quand on entend des choses comme cela ?»
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Pense à 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Dakar pour nous parler d'une expérience personnelle. Bonjour Alice.
Bonjour Emmanuel, bonjour les voisins et les voisines.
Vous avez 32 ans et vous souhaitez nous faire part d'un entretien dans une école d'hôtesse de l'air que vous avez passé il y a quelques années.
Exactement. J'ai vu une annonce comme ça sur un journal de la place. J'ai déposé avec les CV et tout, la lettre, et après on m'a convoqué sur le dossier. Maintenant, arrivé sur place, il fallait prendre les mensurations et tout. Et après, on m'a clairement fait comprendre que je ne rentrais pas dans les normes parce que physiquement, j'étais assez courte et un peu grosse.
Mmh.
Voilà, donc, et à cause de ça, j'ai été recalée.
Et comment vous avez pris ça?
Je l'ai pris très très mal parce que, bon, dans ma tête, c'était ça va, d'autant plus que maintenant, même quand je voyage, je vois des hôtesses qui sont à peu près de la même taille que moi.
Oui.
Donc, mais à l'époque, je l'avais très mal pris.
Oui.
J'étais frustrée. J'en ai parlé à personne. Bon, j'ai dit juste que je n'ai pas été sélectionnée et j'ai gardé ça pour moi.
Oui. Vous avez le sentiment que vous nous le disiez, pour moi, mon physique, ça allait. Donc, vous avez, ça a ébranlé la confiance que vous aviez en vous-même.
Exactement, exactement. Mmh. Donc là, c'est comme si je prenais tout de suite conscience que voilà, donc physiquement, c'est pas ce que je pensais réellement.
Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Alice, pour ce témoignage. Bien sûr, vous continuez de nous appeler si vous vous sentez à l'heure actuelle discriminée dans votre société. Dites-nous pourquoi. Évidemment, pour des raisons physiques, puisqu'on parle aujourd'hui de la laideur, comment elle se définit dans les sociétés. C'est un sujet d'ailleurs qui est assez tabou un peu partout. Bonjour Roméo.
Oui, bonjour Emmanuel.
Roméo, Georges Vigarello nous disait il y a quelques instants dans ce studio que finalement c'est un peu un sujet en creux. On écrit beaucoup plus sur la beauté, on parle beaucoup plus de la beauté qu'on ne parle de la laideur. Vous nous appelez de Cotonou au Bénin et vous avez dit au Standard que la laideur c'était vraiment un sujet tabou chez vous.
Oui, la laideur est un sujet tabou. D'autant plus que dans un avis de recrutement, plutôt qu'on précise si vous n'êtes pas beau, ne déposez pas le dossier, on vous exige carrément une photo complète.
Oui.
Mais ça sous-entend, si tu es moche, il ne faut pas venir. Voilà la stratégie que les recruteurs utilisent.
Oui.
J'ai écouté la voisine de tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel les employeurs sont très exigeants. L'hôtellerie de l'air, par exemple,
oui.
Le domaine de la mode ou bien du mannequinat, on exige à Cotonou une photo complète. Ça
oui.
dit si tu es moche, ou bien si tu es de courte taille,
oui.
ou bien si tu n'es pas, si ton teint ne reflète pas,
oui.
tu ne pourrais pas vendre l'image de l'entreprise. Carrément, il ne faut pas déposer le dossier.
Merci Roméo de nous avoir appelé. Il faut tout de même préciser que dans certains pays, c'est le cas de la France, hein, le code pénal a été modifié. On peut attaquer un employeur potentiel pour discrimination physique en dehors de la discrimination fondée sur le sexe, sur l'âge, sur la race, hein, pour discrimination physique pure, sauf précisément dans les métiers de la mode. Donc là, on avait ce témoignage de cette jeune femme concernant un métier commercial, à savoir hôtesse de l'air. Il y a beaucoup de débats autour de ces métiers-là dits commerciaux, de relations avec l'autre, mais c'est pas la même chose qu'un métier lié à la mode et à la beauté précisément. Comment vous analysez cela, l'un et l'autre, Georges Vigarello ?
Alors moi, je pense qu'il faut insister sur le fait que nous sommes des sociétés à majorité tertiaire, c'est-à-dire nous sommes des sociétés où les métiers sont des métiers relationnels, où l'apparence finalement joue, quoi qu'on l'on dise, un rôle. Et je pense à ce livre très beau de Jean-François Amadieu, Le poids des apparences, qui montre que selon l'apparence que vous avez, vous provoquez un effet qui peut être différent et qui peut renvoyer au fait que votre employeur est plus ou moins, apprécie plus ou moins votre présence. Ça, c'est incontournable. En même temps, ce qui me paraît assez fondamental, il y a quelque chose qui est dans du paradoxe ou de la contradiction. En même temps, ce qui paraît fondamental, c'est que le statut de la femme a quand même considérablement changé. On ne peut pas l'oublier non plus. Bien sûr, elle reste un être qui est, qu'on le veuille ou pas, un objet de séduction. Mais son statut a quand même considérablement changé. C'est quelqu'un qui peut faire des métiers de force, qui peut faire des métiers de la résistance, qui peut faire des métiers, je dirais, où, au fond, la douleur est relativement présente. C'est quand même un changement fondamental. Les pratiques sportives ont explosé par rapport à ce qu'elles étaient auparavant. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce changement. Mais en même temps, c'est vrai, des sociétés du tertiaire, des sociétés qui sont celles de la relation, entraînent un certain nombre d'exigences et du coup, effectivement, elles peuvent pénaliser des personnes dont l'apparence ne correspond pas à ce qui est attendu. C'est
indiscutable. Dans les compagnies aériennes, il y a eu des procès, hein, ce sujet-là,
d'ailleurs Claudine Sagarte. Jean-François Amadieu le révèle très très bien. Il reprend un certain nombre de cas de femmes qui ont été discriminées par rapport à leur apparence physique et notamment par rapport au poids.
C'est ça, vous admettez que c'est pas du tout la même chose que de postuler à une agence de mannequins où là d'emblée la règle est établie, la règle est claire, hein, même si ça dépasse parfois ce qu'on peut imaginer.
Mais là je rejoins tout à fait ce que dit Georges Vigarello, je pense que dans une majorité de domaines, l'apparence joue un rôle très très important,
donc,
ce qui peut être discriminant, mais à des niveaux différents, notamment au niveau de des salaires qui sont inférieurs si selon le curseur esthétique où on
c'est
le
ça.
Place.
La tertiarisation de la société, ouais. Finalement,
ben oui. Complètement.
C'est un boulevard effets. Pour la dictature de l'apparence physique.
Alors, dictature, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas, évidemment, l'apparence physique pèse plus qu'elle ne pesait sans doute auparavant. Il faut ajouter autre chose qui me paraît très important, qui est très difficile à analyser. C'est que non seulement le statut de la femme a changé, mais le statut du corps lui-même a changé. Autrement dit, dans des sociétés qui sont moins religieuses qu'elles ne l'étaient auparavant, dans des sociétés où le poids du social fait place davantage au poids de l'individuel, eh bien, les sujets finalement sont davantage liés à leur propre expression, ce qu'ils expriment et ce qu'ils sont, vous voyez. Et à ce moment-là, évidemment, la façon dont votre individualité est mise en scène devient plus importante qu'auparavant.
Georges Vigarello et Claudine Sagarte, vous restez avec nous. Être laid est-il un handicap dans nos sociétés? Et si oui, jusqu'à quel point? Réponse juste après le flash, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 minutes, notamment avec notre correspondant en Corée du Sud. Et bien sûr, quant à vous les voisins, appelez-nous si vous vous sentez discriminé, désavantagé par votre physique.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi?
J'ai aimé le nom 7 milliards. Parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Plus les 7 milliards de voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, les gens laids peuvent-ils trouver leur place dans la société quand règne l'injonction de la beauté, ou en tout cas une société, comme vous nous le disiez, Georges Vigarello, qui s'est tertiarisée, où la relation à l'autre, l'importance aussi de l'image est évidemment centrale. On en parle avec vous, Georges Vigarello. Vous êtes philosophe, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la beauté, le corps. Claudine Sagart, également sociologue, philosophe, vous venez de publier L'histoire de la laideur féminine. Depuis l'Antiquité, on découvre des textes assez incroyables. Et bien sûr, quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous si vous vous sentez discriminé par un physique jugé peu harmonieux, ou si au contraire, d'ailleurs, votre physique peut-être se trouve révélée depuis que vous avez changé de pays ou de continent, pourquoi pas. Direction à présent, la Corée du Sud, où la fascination, voire l'obsession de tout un pays pour la beauté physique prend des proportions étonnantes, au point que l'on peut parler de discrimination assumée contre les laids. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes en direct avec nous, vous êtes notre correspondant à Séoul. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce climat anti-moche qui règne actuellement en Corée du Sud ?
Oui, eh bien, en fait, ça commence par la télévision qui regorge vraiment de programmes de télé-réalité qui montrent des gens souffrir à cause de leur laideur. Tel professeur voit ses élèves fuir ses cours parce qu'elle a un menton en galoche, ou telle épouse est rejetée par son mari parce qu'elle n'est pas assez jolie. Un exemple très frappant, c'est l'émission comique très populaire appelée Gag Concert. Elle diffuse beaucoup de sketchs vraiment lourdingues qui consistent simplement à se moquer de gens jugés moches et pas assez minces. Le message répété semaine après semaine est limpide. Si vous êtes laid, alors il est normal d'être moins aimé et d'être l'objet de moqueries. Ces programmes répandent vraiment l'idée que la discrimination dont sont victimes les moches est tout à fait légitime, et ils présentent souvent la chirurgie esthétique comme une véritable baguette magique, censée résoudre tous les problèmes. Et puis un autre exemple, c'est celui de Kim Ji-young. Elle est la toute première modèle grande taille de Corée du Sud. Oui. Alors à nos yeux d'occidentaux, elle est juste un peu ronde. Elle était même trop maigre pour pouvoir travailler comme modèle XXL aux États-Unis. Mais ici en Corée du Sud, elle est considérée comme très grosse, et elle raconte dans ses interviews que tout le monde, à commencer par sa propre mère, insiste pour qu'elle fasse un régime. Ouais.
Et peut-on parler de discrimination effective contre les gens qui ne sont pas beaux, Frédéric ?
Oui, vraiment. Une amie à qui j'ai posé la question m'a répondu « Les moches ne sont pas embauchés, pas promus, pas aimés ». Alors c'est caricatural, c'est même très caricatural, mais cela résume quand même la situation. Les brimades sont quotidiennes pour les Coréens jugés moins beaux. Au bureau, ben, c'est tout à fait acceptable de dire à une collègue qu'elle n'est pas jolie et qu'elle doit faire un régime. À la maison, c'est la mère qui va insister pour que sa fille se fasse refaire le nez et donc augmenter ses chances de faire un beau mariage. Kim Ji-young, le modèle grande taille dont je viens de parler, explique que les Coréens jugés trop gros préfèrent ne pas sortir et restent chez eux. Elle-même reçoit de nombreux courriers d'insultes très violentes après qu'elle a fondé son propre magazine dédié aux gens un peu enveloppés. Tout cela est d'autant plus idiot et révoltant qu'il n'existe en Corée du Sud qu'un seul canon de beauté qui est très, très étroitement défini. Et le résultat, c'est que de nombreuses personnes qui sont belles à nos yeux d'occidentaux sont considérées comme laides ici.
Et quelles sont les conséquences sociales de cette observation, de cette obsession extrême pour la beauté physique en Corée du Sud ?
Alors, la première conséquence visible, eh bien, c'est que les Coréens sont un peuple très beau. Ça frappe le visiteur qui découvre les rues de Séoul la première fois, où ici tout le monde est habillé sur son 31. Mais je pense que c'est pas vraiment faire injure aux Coréens de dire que leur société n'est pas la plus heureuse au monde. Cette obsession pour la beauté se traduit par un taux d'utilisation record de la chirurgie esthétique, par des dépenses astronomiques en produits cosmétiques, y compris pour les hommes. Les hommes coréens sont les premiers consommateurs de produits de beauté au monde. Et puis quand toute une société place la beauté au-dessus du reste, eh bien les autres valeurs telles que la générosité, l'ouverture d'esprit, la joie de vivre, la créativité, eh bien ces valeurs se voient plus facilement négligées. La pression pour atteindre des canons de beauté très étroits est si écrasante que cela crée une société où il est beaucoup plus difficile de s'accepter tel que l'on est, de s'épanouir et donc d'être heureux.
Climat anti-moche donc en Corée du Sud. Merci beaucoup Frédéric Ojardias et bonne soirée à Séoul. Claudine Sagart, Georges Vigarello, que vous inspirent ces descriptions finalement assez différentes encore de ce qu'on vit en Europe ?
Alors ce qui est très étonnant déjà, c'est le dit de la laideur. Alors que en France notamment, on est plutôt dans un non-dit, dans une dimension taboue. Là, visiblement, il y a une libération de la parole où on peut déterminer qui est beau, qui n'est pas beau, hein, en fonction des critères. Ce qui est extrêmement choquant aussi, c'est le fait que la beauté, finalement, soit un chèque en blanc pour la réussite, l'épanouissement, et que inversement, celui qui est jugé laid est discriminé.
Georges Vigarello.
Ce que je trouve passionnant dans ces problèmes, c'est qu'ils sont à la fois anthropologiques, ethniques, ça change selon les cultures, et en même temps ça change selon le temps. D'ailleurs, c'est l'intérêt du livre de Claudine Sagard qui prend les deux dimensions. Et ici, nous sommes confrontés à une différence culturelle très forte, même si les modèles sont finalement plus ou moins les mêmes. Ce que j'ai entendu privilégie apparemment la minceur et privilégie apparemment l'harmonie du visage.
Si ce n'est que là, il y a une responsabilité qui pèse sur chacun d'entre nous, finalement.
Oui.
Si tu veux, tu peux, tu dois devenir acceptable, aimable physiquement, c'est-à-dire beau ou belle.
Et apparemment, il y a des sociétés qui, sur ces critères-là, sont plus abruptes que les autres, sont plus cruelles que les autres.
Ça va quand même à l'encontre de tout ce qu'on a vécu et de tout ce que vous décrivez dans les textes depuis l'Antiquité, Claudine Sagard, qui est que, finalement, on ne peut, lorsque l'on est laid, on n'y peut rien. Dieu en a décidé ainsi.
Alors, à la fois oui, à la fois non. Ça dépend, justement, l'époque de référence. Mais je pense véritablement que le discours qui est livré ouvertement à Séoul est exactement le même en France.
Mais il est plus abrupt et plus cruel.
Complètement.
Voilà, c'est ça.
Complètement. Mais l'injonction et l'idée qu'on peut fabriquer notre beauté par un travail sur soi conduit énormément de jeunes filles et de femmes à un rapport complètement dictatorial à leur corps, à une méprise par rapport à ce qu'elles ne peuvent pas atteindre, ce qu'elles voudraient être.
Mais dans le monde de l'emploi, par exemple, on va parler d'un candidat qui a du charisme. On ne dira pas qu'il est beau, par exemple. On serait assez mal vu.
Non, parce que justement, la loi est quand même derrière où on ne parle pas de ces choses-là.
Ouais. Le mot charisme, ça vous semble être vraiment un mot qui masque, un cache-sexe de la beauté ou pas?
Je pense qu'il est important. Il est important, on le voit dans la manière dont on peut distinguer ce que j'appellerais la présence des acteurs. Certains, manifestement, répondent beaucoup mieux que d'autres à la présence de l'image, à la présence finalement de la manière dont ils expriment les choses. Vous voyez, je crois que c'est très important ça, parce qu'il y a quand même une différence entre la forme, au sens tout simplement statique du terme, et la manière dont cette forme elle est mise en jeu. C'est quand même très important cela. Et on voit bien que chez certains acteurs, y compris dans le simple fait de la manière dont ils regardent, il y a des forces qui sont plus marquantes que d'autres. Et ça, je pense que c'est à prendre en compte. Et c'est très difficile à désigner. C'est très difficile à mettre des mots sur ce genre de, je dirais, de force intérieure. Mais à l'évidence, ça joue un rôle.
Claudine Sagard, on est évidemment aujourd'hui, en plus, dans une époque de domination par l'image.
Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est important de rappeler que le XXe siècle a inauguré un autre rapport au corps et un autre rapport à l'image. Ne serait-ce que, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au miroir,
oui,
par rapport à la photo.
On parlait de ça pendant le flash, alors les auditeurs n'ont pas eu la chance de vous entendre là-dessus, mais c'est vrai qu'on oublie que pendant des siècles, les gens n'avaient pas de miroir chez eux. Donc ils n'avaient
pas de miroir.
Des miroirs infimes ou des miroirs minuscules.
Des miroirs minuscules qui retransmettait une image parfois approximative. Et que, quand même, jusqu'au XIVe siècle, le miroir est véritablement un objet semi-précieux. Qui possède luxueux. Des miroirs luxueux, tout à fait.
Je pense à Fantine, vous savez, dans Les Misérables. Fantine utilise un miroir brisé et elle vérifie le fait qu'elle devient enceinte en mettant son miroir de côté, ce qui montre quand même à la fois le dénuement et le rôle extrêmement complexe du miroir. Vous,
vous nous appelez les voisins et les voisines. Nous parlons de la laideur aujourd'hui. Quelle place pour les personnes jugées laides par les autres? Nous accueillons Hassan, un voisin qui nous appelle du nord du Cameroun. Bonjour Hassan.
Bonjour Emmanuel.
Hassan, vous êtes à Kousséri, nous vous écoutons.
Dans ma société, les personnes laides ne sont pas du tout rejetées dans ma société. Parce que ces personnes savent que ces individus qui sont laids sont créés par Dieu.
Oui.
Et ces personnes entretiennent des bonnes relations sociales.
Oui.
Et ils sont à l'aise au sein de leur travail. Mais du coup, quand il s'agit de l'amour, ces personnes sont rejetées par les jeunes filles. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est très noir et qui a, comment dirais-je, ses dents sont un peu longues.
Oui.
Cet ami entretient des bonnes relations avec nous.
Oui.
Mais il n'a jamais eu la chance d'être aimé par les filles.
Mais alors, qu'est-ce qui pose un problème avec les filles? Vous avez l'air de dire que c'est la couleur de sa peau?
Ces jeunes filles aiment les mecs qui sont beaux, qui ont une peau un peu brune.
Oui, brune, c'est-à-dire?
Qui n'est pas noir, Emmanuel.
D'accord, donc en fait, vous établissez une différence hein, entre les différents degrés de peau noire, hein, si j'ai bien compris.
Exactement, c'est ça.
Et ça, c'est un sujet dont vous parlez entre vous? Ou finalement, c'est complètement intégré à l'intérieur de soi-même?
C'est lui qui nous raconte souvent. Pourquoi est-ce que ces jeunes filles ne l'aiment pas?
Oui. Il vous dit, les filles ne m'aiment pas parce que j'ai la peau trop foncée, entre autres.
Exactement, c'est nous qui avons analysé ça.
Oui. Merci beaucoup, Hassan, de nous avoir appelé. Alors évidemment, dans vos livres respectifs, hein, la couleur de la peau, alors il y a l'âge aussi, hein, la vieillesse, la déchéance du corps, mais la couleur de la peau est aussi un sujet central sur tous les continents, en fait.
Oui,
Claudine Sagarte.
Oui, oui, tout.
D'ailleurs, on parlait de la Corée du Sud. Il y a une obsession pour la peau qui doit être sans tache, sans aspérité, qui doit être extrêmement claire, etc. En Europe, c'est plutôt une obsession pour avoir bonne mine, hein, pour avoir une peau hâlée, qui est une preuve de santé. Et sur le continent africain, on l'entend bien, le degré de couleur, de noirceur de la peau continue d'être un sujet.
Tout à fait. Et ce qui est étonnant, bon, j'ai vécu plusieurs années au Brésil et en Amérique latine aussi en général, les références à la beauté sont essentiellement des femmes à peau blanche. Donc, pourquoi la peau pose encore problème? Parce que, véritablement, on a comme modèle de beauté la femme blanche. À partir de là, comment une femme noire ou un homme noir peut s'identifier à ce type de beauté qui ne correspond pas du tout à leur culture? Il y a nécessairement un déni d'identité. Et si on prend les textes, je pense au très beau texte de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, où il montre qu'il y a eu une intériorisation de certains critères comme, divulgués par la colonisation, que le noir a intégré la laideur, la malpropreté, le fait qu'il ait des capacités intellectuelles inférieures, parce que ce sont des critères qui ont été imposés par les Blancs. Et je pense que si aujourd'hui, bien évidemment, on n'a pas directement ce type de référence, néanmoins, il joue toujours un rôle de manière non consciente. Au sens des habitudes dont parlerait Bourdieu, qui ont été intégrées par les populations.
Alors, le témoignage d'Hassan était intéressant parce qu'évidemment, il nous citait le cas d'un ami qui n'avait, pour qui l'apparence physique ne posait aucun problème dans son milieu social d'amitié, et finalement, ne posait problème que dans la sphère strictement privée, c'est-à-dire la vie sentimentale. On accueille Abdoulaye qui nous appelle de Dakar. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Emmanuel.
Abdoulaye, vous souhaitez nous parler d'un ami à vous qui a, semble-t-il, un problème, une déformation physique.
Oui, effectivement, c'était un ami. Nous étions en classe de terminale. Alors, il souffrait d'une certaine déformation physique. Et il était même anorexique, parce que quand on est jeune, on est assez violent, on le faisait tout le temps, faut pas venir avec nous, parce que si tu viens avec nous, on pourra pas avoir de petite amie, bon, des trucs de jeunes. Mais au jour d'aujourd'hui, il s'est marié avec une femme, et je pèse mes mots, splendide.
Oui.
Voilà. Donc là, juste pour dire que, en fait, la beauté ou la laideur, ça dépend des yeux qui regardent. Parce que mon prof de philo disait, on est beau quand on est reconnu universellement, que ce soit à Paris, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Guinée. Et je pense que cela n'existe pas.
Ben bien sûr, c'est ce que finalement on a dit depuis le début de l'émission. Enfin, c'est plus compliqué.
Voilà. Donc je pense qu'il faudrait, il ne faudrait pas stigmatiser les gens qui sont beaux ou ceux qui sont laids. Parce que, en fait, ça dépend. Pour chaque type d'homme ou chaque type de femme, correspond à un type d'homme ou à un type de femme.
Oui. Et alors, finalement, pour vous, cette amie, c'est une vengeance sur la vie, d'une certaine façon, ou pas? Une vengeance sociale par rapport à cette disgrâce physique?
Oui, parce qu'on est toujours ensemble, on se retrouve très souvent, mais il le dit de manière très anecdotique. Tu te souviens de l'année où tu ne pouvais pas être moi, etc., etc. Bon, il le dit en riant, même. Il y a cette... ça veut dire que, d'une certaine manière, cela l'a marqué.
Oui.
Oui, effectivement, c'est une petite vengeance, même s'il ne le dit pas.
Merci, Abdoulaye, et puis amitié à votre professeur de philo, hein, qui semble-t-il vous a marqué là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet philosophique, hein, Georges Vigarello. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'il est lu.
C'est un sujet philosophique parce qu'il est au croisement de goûts qui sont totalement subjectifs et singuliers, et puis de goûts qui, quand même, ne peuvent pas échapper à certains critères culturels.
Oui, mais alors là, vous voyez, on a quand même beaucoup d'auditeurs qui disent mais non, le physique, c'est pas si important.
Non, mais c'est passionnant, etc. Parce qu'en fait, du coup.
Est-ce qu'on n'a pas tous une incapacité à reconnaître que malgré nous, inconsciemment, dans nos mécanismes, nous avons une attirance pour le beau?
Mais parce que nous sommes au cœur d'un paradoxe que je viens d'évoquer et qui a été très bien évoqué par Claudine tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de l'individuel au sens très fort du terme et puis il y a du collectif. Mais je voudrais revenir en arrière un instant sur le problème de la couleur. Parce que je trouve que là aussi, il y a plusieurs paradoxes qui sont extrêmement intéressants. Le premier paradoxe, c'est le suivant. C'est historiquement, si vous voulez. La couleur blanche, dans le monde européen, a été largement privilégiée parce que, de surcroît, elle donnait référence à de la pureté, l'intérieur, la pureté des humeurs, etc. Et en particulier, la blancheur de la femme était une sorte d'obligation absolue. Et puis,
c'est encore ce qu'on appelle le type caucasien règne encore sur le monde du marketing aujourd'hui.
Bien sûr, mais dans le mode occidental, vous avez quand même quelque chose qui est de l'ordre du bronzage, qui est de l'ordre du hâle. Comme vous le disiez tout à l'heure, le hâle peut témoigner, au fond, d'un signe de santé. Alors que le hâle était totalement interdit
parce qu'il montrait qu'on travaillait dehors.
Au 17e siècle, voilà, qui vous donnait le sentiment que vous étiez un travailleur de la terre. Et je pense à des voyageurs qui disaient, quand j'arrive du côté de Montpellier, les femmes sont laides parce qu'elles sont noires. Vous voyez. Mais continuons le paradoxe une seconde. Un exemple donné tout à l'heure était tout à fait passionnant, parce que d'un côté, vous l'avez relevé très justement, la personne disait, au fond, dans mon entourage, le fait d'avoir une peau très bronzée, c'est pas très grave, au contraire, c'est bien. Et puis en même temps, dans d'autres types de relations, ça devient moche, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'il y a, au fond, des goûts qui peuvent varier selon le lieu dans lequel vous êtes. J'insiste une seconde sur la question du profil. Il est évident que dans certains cas, ce que j'appellerais pour la femme le profil mammaire, c'est-à-dire le fait, par exemple, qu'elle soit vraiment privilégiée parce qu'elle est mère, parce qu'elle a des formes rondes, parce qu'elle a des enfants, eh bien cela, ça peut être privilégié. Et au même moment, c'est la minceur qui est attendue, vous voyez. C'est l'efficacité que le corps peut montrer à travers la possibilité de mobilité et la possibilité de disponibilité. Donc là, on est encore au croisement de quelque chose qui est très fort et qui est dans d'un paradoxe auquel il est très difficile d'échapper.
Depuis le début, vous noterez que ce sont surtout des voisins qui nous appellent, c'est tout de même étonnant, alors que tous disent dans les messages Facebook, c'est quand même plus dur pour les femmes. On aimerait bien que les voisines nous appellent et qu'elles ne s'auto-censurent pas. Nous accueillons néanmoins, et avec beaucoup de plaisir, Daniel qui nous appelle de N'Djamena, au Tchad. Bonjour Daniel, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons.
Oui, j'appelle par rapport à la discrimination. Concernant le mien, c'est le problème de taille.
Oui.
Et je suis un étudiant à la faculté. Et comme vous savez, à la faculté, les camarades aiment beaucoup faire de certaines blagues, mais qui parfois, quand on est trop sérieux.
Oui.
Et je n'ai pas beaucoup de taille, j'ai 1m50 quelques.
Vous mesurez 1m55, hein. 1m55, c'est bien cela.
Effectivement, 1m55. Et là, à la faculté, c'est vraiment de blagues toute la journée. Mais quand je me retrouve seul à la maison, j'essaie de revoir ou de penser à ce qu'il dit. Ça fait vraiment mal.
Oui. Vous vous sentez sans défense, finalement, par rapport à ces attaques?
Eh oui, mais on est obligé d'accepter comme ça parce que c'est l'école, la femme, on se dit tout. Mais ouais. Sinon, ça fait du mal.
Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Daniel, parce que c'est courageux hein, d'appeler pour parler de son propre sentiment de discrimination, notamment la taille, évidemment, oui. Pour un homme. On a beaucoup parlé des femmes qui sont plus discriminées que les hommes pour le physique. La taille reste un facteur socialement discriminant pour
taille,
un homme.
La taille, effectivement, c'est très important. Anthropologiquement, c'est-à-dire en traversant les cultures, on voit bien que la haute taille, je pense par exemple à la façon dont on a sélectionné les militaires sous l'Ancien Régime, la haute taille est un signe de force. C'est un signe de résistance. Mmh. Et la petite taille, c'est au contraire un signe de faiblesse. Oui. À quoi s'ajoute quelque chose qui me paraît encore plus important, c'est que l'adulte qui maintient une petite taille est souvent pris pour un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose qui renvoie à de la fragilité, à de la dépendance, et donc finalement à une possibilité d'imposer et de dominer par rapport à lui. Donc ça entraîne des questions qui sont extrêmement difficiles, graves et à mon avis redoutables.
Bon, en même temps, pour peut-être rassurer Daniel, il faut savoir qu'il y a des hommes avec de petite taille, et je pense notamment au domaine politique, de petite taille avec bien une sûr. Énergie et un charisme, c'est vraiment le cas de le dire, qui ont évidemment présidé à leur carrière.
Je parlais des soldats, je parlais des soldats, et je pense à un exemple de Vauban qui disait: oui, c'est vrai, vous sélectionnez les grands, vous savez, ils géraient les militaires. Ils disent, oui, mais les petits sont quand même pleins de force, d'énergie, ils ont du feu. Voilà, bah, effectivement, c'est vrai.
Voilà, j'espère que vous avez noté tout ça, Daniel, à N'Djamena. Je voudrais qu'on parle de l'argent, parce qu'on a eu des messages évidemment assez cash. Marcel, à Antananarive, à Madagascar, nous dit, on peut lutter contre la laideur, il suffit d'avoir beaucoup de pognon, d'être blindé. Abel nous dit, en Afrique, la beauté d'un homme se trouve dans sa poche. Moussa à Dakar le confirme, l'argent masque la laideur. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de jeunes filles qui se marient avec des vieux? Alors le lien entre l'argent et la laideur, le lien aussi entre la pauvreté et la laideur, ce sont des sujets que vous avez évidemment longuement étudiés, Claudine Sagarte.
Oui, c'est vrai que le lien n'est pas anodin, et encore à l'heure actuelle, pour optimiser sa beauté, on est obligé de reconnaître que faut avoir recours à certains types de produits, voire même, comme il a été dit, la chirurgie esthétique.
Mais sur l'argent qui masque la laideur, encore aujourd'hui, sur tous les continents, pour les hommes?
Pour les hommes, ou... Alors, bon, c'est toujours gênant de renvoyer la femme à l'idée qu'elle se marie avec quelqu'un qui a de l'argent. Bon, ça, c'est un type, à mon avis, de stéréotype qui est un peu gênant. Mais l'idée, effectivement, que si vous avez des moyens financiers, vous pourrez optimiser votre apparence est incontestable.
C'est le cas pour la Corée du Sud, notamment. D'accord.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Mais pour l'homme qui a de l'argent, tout de même, la compensation avec un physique, on va dire, soit ingrat, soit très moyen, Georges Vigarello, est-ce que cette réalité-là perdure de toute évidence?
Je pense qu'elle perdure. Ce qui perdure aussi,
me semble-t-il.
Ce qui perdure aussi et qui est lié souvent à l'argent, c'est le fait de disposer d'un pouvoir.
Voilà.
Et à ce moment-là, le fait d'avoir de l'impact sur les autres a un côté évidemment fascinant. Je mets des guillemets à fascinant, mais c'est quand même ça, vous voyez. On le voit d'ailleurs aujourd'hui dans le monde politique.
Alors, et puis l'homme et la femme ne sont pas traités à égalité. Je pense que l'homme, c'est encore à l'heure actuelle, l'esthétique est renvoyée aussi à la fonction. C'est-à-dire que selon le rôle, selon la fonction, selon effectivement le pouvoir d'achat, la beauté ne sera pas, ou la laideur ne sera pas équivalente.
Vous citez dans votre livre, Claudine Sagarte, le philosophe Michel Foucault, écrit « On est responsable de ce que l'on donne à voir de soi. En chacun est née la peur d'être laid ou de devenir laid, les efforts fournis pour échapper à ce handicap risquant d'être toujours insuffisants. » Est-ce qu'aujourd'hui encore notre société se dirige vers cette injonction-là plus que jamais, vous diriez? Comment vous analysez?
Alors, plus que jamais, et je dirais même sans limite. parce que il y a de plus en plus d'opérations de chirurgie esthétique. Et tout à l'heure, je parlais justement de la nymphoplastie, c'est-à-dire que ça dépasse le visage, ça dépasse l'amincissement. Là, depuis quelques décennies, c'est le sexe féminin que l'on retouche. Donc,
précisément, c'est un organe qu'on n'est pas amené à voir dans son miroir tous les jours.
Voilà, exactement. Mais qui, de plus en plus, est soumis à la critique. Et il faut, là aussi, avoir un sexe design bien configuré.
Georges Vigarello, on a quand même ces mouvements contradictoires. Le retour du naturel, d'être bien dans sa peau, de la bienveillance. Et en même temps, cette dictature d'une industrie, de l'esprit de la performance dans le monde du travail. Vers quelle société allons-nous?
La notion du mieux-être me paraît personnellement importante aujourd'hui parce qu'elle est indéfinie. Mais à quoi s'ajoute, et on vient de l'évoquer, et ça me paraît important, une sorte de contradiction quasi métaphysique. Vous n'arrivez jamais à être au mieux de ce que vous souhaitez être. Donc il y a une rupture entre vous et vos attentes.
Merci à tous les deux. Claudine Sagard, Histoire de la laideur féminine aux éditions Imago, et Georges Vigarello, Histoire de la beauté, Les métamorphoses du gras aux éditions du Seuil. Demain, 7 milliards de voisins. Rediffusion de notre émission sur la famille et l'argent. Il y a les radins, les généreux, les cigales, les fourmis, les planificateurs, les amours désintéressés. L'argent est partout dans nos sociétés. Alors comment faire pour reconnaître à la fois son importance dans les relations humaines sans qu'il devienne un poison? Bref, comment faire les bons choix dans la vie avec et pas seulement pour l'argent? On en parle demain à la même heure. Découvrez